5, 4, 3, 2, 1.
Allô Jean-Luc, qu'est-ce que tu me reçois?
Te reçois 5 sur 5.
Est-ce que si je te dis la tête dans les étoiles, ça te dit quelque chose?
La tête dans les étoiles? C'est sur Radio Dynamo ça.
Tout à fait, c'est l'émission qui va vous parler d'astronomie. Mais c'est quand déjà?
C'est tous les premiers lundis de chaque mois.
Rendez-vous sur Planète Dynamo, le premier lundi du mois à 19h, avec Jean-Luc
et Benjamin. Une émission proposée par l'association Partage Étoilé.
Bonjour citoyens et citoyennes de la Voie Lactée, salut l'équipe, salut Jean-Luc, salut Belette.
Salut les gars.
Bon retour parmi nous.
Et oui, c'est vrai, on avoue que pour le mois d'avril, on a sauté à pieds joints parce que c'était férié.
Bah, c'est pas si mal, hein.
Oui, bah voilà, on a de la chance parce qu'avec le nombre de jours fériés sur le mois de mai, ça aurait pu en faire pas mal.
C'est clair, ça viendra, ça viendra.
Bon, on espère que tout le monde va bien, mais nous revoilà ensemble pour ce début de soirée. Alors, pas sous les étoiles puisque les journées se rallongent, mais on va s'en rapprocher. Alors, au programme de cette émission, on commencera avec une petite balade étoilée, petit récit immersif lors de la nuit des équinoxes, un petit récit des observations de la nuit. Dans un deuxième temps, on évoquera un événement astronomique du moment, notre retour vers la Lune avec l'émission Artemis.
Ah ouais.
Et pour une troisième partie, nous partirons faire de l'alpinisme au sommet de Pluton. Pourquoi pas, hein? J'espère que vous avez votre baudrier, tout ce qu'il faut.
Vous devez vous douter que c'est de l'anticipation. D'ici 100, 200 ans, on fera ça, mais c'est un beau récit.
Alors prenez place, on va pouvoir démarrer avec ce petit programme sympathique et plutôt atypique. Un petit voyage interstellaire qui vous attend. Installez-vous confortablement, l'émission commence. Comme je vous disais donc dans cette première partie d'émission, je vous propose un petit retour sur les nuits de l'équinoxe 2026 auquel l'association Partage Étoilé a participé avec le comité des fêtes de Concremier et dont la thématique était un voyage dans le temps. Les nuits de l'équinoxe sont donc comme les nuits des étoiles organisées par l'association française d'astronomie qui ont lieu maintenant, probablement de manière annuelle, à chaque période, donc comme vous l'avez bien compris, de l'équinoxe. On ne parle donc pas des nuits des étoiles d'hiver, mais de l'équinoxe. Et ainsi, il y a des soirées qui commencent un peu comme une promesse, et celle-ci en faisait partie. Nous étions au mois de mars, au moment des nuits de l'équinoxe, et ce soir-là, avec Alain, nous avons rendez-vous avec le ciel au stade de foot de Concremier. On connaît bien ce lieu maintenant, point de repère de l'association Partage Étoilé. Nous sommes arrivés sur place vers 19h, alors que le jour s'effaçait lentement. L'air était encore frais, mais déjà on pouvait sentir que la nuit serait belle. Nous avons sorti tranquillement de la voiture le matériel, le tube de télescope Dobson, la monture unistellaire intelligente qui, tout doucement, ont pris leur place. Le soleil s'est couché et à l'ouest, un fin croissant de lune dans le ciel a commencé à apparaître, un peu comme un sourire discret adressé à ceux qui prennent le temps de lever les yeux. Un peu plus bas, Vénus, l'étoile du berger, brillait alors comme le premier astre. En ce mois de mars 2026, elle ouvrait la nuit de l'équinoxe, brillante dans les lueurs du coucher du soleil. Tandis que Jupiter, haut dans le ciel du début de soirée, apparaissait doucement. Et surtout, ce soir-là, pas un nuage. Avant que le public n'arrive, il faut préparer le matériel. Réglage du télescope, le Dobson, qui après le trajet en voiture, demande toujours une petite vérification de ses miroirs. On ajuste, on affine, on contrôle l'alignement de ceux-ci. Quelques minutes plus tard, tout semble en place. Le ciel peut venir à nous, nous sommes prêts. D'ailleurs, voici déjà le premier grand astre de la soirée. Comme je le disais, Jupiter. Presque au-dessus de nos têtes, cette planète ne passe pas inaperçue. Même pour les non-initiés, elle attire tout de suite l'attention. Brillante, stable, majestueuse. Et oui, je vous le rappelle, elle n'a pas de scintillement comme les étoiles. Les planètes ne scintillent donc pas et sont bien plus repérables que les étoiles. À l'ouest, là encore une autre planète, Vénus, continue encore de briller, juste sous la Lune, avant de glisser peu à peu vers l'horizon et de disparaître. C'est toujours intéressant de montrer que les planètes ne sont pas de simples points lumineux, mais de véritables mondes, chacun avec sa place, sa lumière, son rythme. Vers 20h, les premiers curieux arrivent. Le public est au rendez-vous et nous les invitons d'abord à venir voir la Lune. Choisissons un faible grossissement pour offrir une vue large et douce sur le Dobson. Le jeune croissant est superbe. Sur la partie éclairée se détachent déjà les reliefs, les bords irréguliers, les premières grandes plaines sombres que l'on appelle les mers lunaires, qui ne sont pas des mers d'eau, mais d'immenses étendues de lave. Les cratères, eux, racontent une autre histoire, celle des chocs inébranlables qui ont façonné sa surface depuis des milliards d'années. Et dans la partie sombre, quand les conditions sont belles, on devine parfois ce léger halo grisâtre que l'on appelle le clair de lune. C'est la lumière du soleil qui est réfléchie par notre planète et renvoyée vers la lune. Les missions d'Artemis, qui doivent ramener des humains vers notre satellite, donnent d'ailleurs à cette observation une résonance très actuelle. Puis la soirée s'élargit. On quitte l'oculaire un instant pour partir à l'œil nu dans un tour des constellations. Le ciel de Mars est un ciel charnière. Il garde encore une grande partie des merveilles de l'hiver, tandis que les figures du printemps commencent à prendre leur place. À l'ouest et au sud-ouest, Orion s'incline lentement, accompagné du taureau, des gémeaux et du cocher. Plus haut, ou vers l'est, émergent déjà les grandes silhouettes du lion et de la vierge, annonçant la saison des galaxies. Au nord, la grande ourse monte très haut dans le ciel, comme un grand repère familier qui commence la promenade. Et c'est là qu'on peut commencer à parler du temps. Car observer le ciel, ce n'est pas seulement regarder loin, c'est regarder dans le passé. La Lune, nous la voyons en environ 1,3 secondes de retard. Jupiter, elle, nous apparaît telle qu'elle était plusieurs dizaines de minutes plus tôt. Quand on pointe ensuite la grande nébuleuse d'Orion, M42, on change totalement d'échelle. Sa lumière met environ 1300 années à lumière à nous parvenir. Cela signifie que ce que nous voyons ce soir a quitté la nébuleuse au Moyen-Âge. Et lorsque nous terminons sur quelques galaxies, nous franchissons un nouveau vertige. Nous ne regardons plus seulement des étoiles, mais des cités entières d'étoiles situées à des millions d'années-lumière. Chaque observation est donc une remontée dans le temps. Nous revenons ensuite vers les instruments. Jupiter fait toujours son effet. Dans l'oculaire, elle devient un disque net, parfois strié de ses grandes bandes nuageuses, accompagné de ses satellites galiléens alignés comme de minuscules points lumineux. À chaque fois, c'est la même surprise chez les visiteurs. Ils découvrent que l'on peut réellement voir un monde. Et quel monde ? Une géante, vaste comme plus de 1300 terres, dont l'atmosphère tourmentée dessine des bandes et des tempêtes visibles. Observation faite, nous repartons vers Orion. Sans doute l'une des plus belles portes d'entrée vers le ciel profond. Peut-être même ma préférée. Dans son épée se cache M42, la grande nébuleuse d'Orion. Une immense région de gaz et de poussière où naissent encore des étoiles. Cette fois-ci, avec le télescope d'Alain, les couleurs deviennent magiques. Son télescope intelligent photographie le ciel, compile les images. Et devant ce nuage pâle suspendu dans le noir, Orion n'est plus seulement une constellation. Enfin, nous partons vers les galaxies. Mars est justement une période idéale de transition vers ce que les astronomes amateurs appellent souvent la saison des galaxies. Dans les zones du ciel et de la Vierge, ou plus haut vers certaines galaxies de printemps, on commence à aller chercher ces lueurs faibles et diffuses, modestes en apparence, mais gigantesques en réalité. Contrairement aux planètes ou à la Lune, ici il faut souvent apprendre à regarder autrement. Ne pas chercher un objet spectaculaire au sens immédiat, mais une présence, une nuée lumineuse, un noyau pâle dans l'obscurité. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'avec nos gros télescopes, si ces pâles lueurs montrent peu de couleurs, avec le télescope, on change de dimension. Et quand on explique au public qu'il ne s'agit pas simplement d'un nuage de notre galaxie, mais bien d'un autre univers étoilé, situé parfois à des dizaines de millions d'années-lumière, c'est souvent là que la soirée prend sa profondeur. Cette soirée des nuits de l'équinoxe à Concremier avait tout pour elle. Un public présent, allez, on va se le dire quand même, juste entre 25 et 30 personnes, mais on était déjà bien contents. Un ciel parfaitement dégagé, pas l'ombre d'un nuage, la finesse d'un jeune croissant de lune, l'éclat de Vénus au couchant, Jupiter en majesté, Orion encore là pour saluer l'hiver et déjà les galaxies du printemps. Une soirée où l'on commence par installer un télescope et où l'on finit par voyager dans le temps. Petite pause musicale.
Avec plaisir.
C'était Addicted to Self-Mutilation du groupe bien connu M83 qui est sorti en avril 2003. Petite ambiance sombre et hypnotique. Vous êtes sur Radio Nimamo avec la tête dans les étoiles. C'est la deuxième partie de l'émission et ce soir dans la tête dans les étoiles, on va parler d'un événement majeur de l'exploration spatiale. Vous avez peut-être tous suivi un petit peu l'actualité et c'est le retour de l'homme autour et bientôt sur la Lune avec le programme Artemis. Plus de 50 ans après les missions Apollo, des astronautes ont de nouveau quitté l'orbite terrestre le 1er avril depuis la Floride pour repartir vers notre satellite naturel. C'était un moment, on va le dire quand même clairement, assez historique, observé dans le monde entier, qui a permis que la Lune, reste un objet quand même fascinant, soit au centre de l'actualité scientifique. Le survol a eu lieu donc le 6 avril et le retour sur Terre avec amerrissage dans le Pacifique au large de San Diego, lui qui a eu lieu le 10 avril 2026. Ce sont donc 9 jours et demi pour ce premier vol habité depuis Apollo 17. Alors peut-être d'abord, on peut se reposer la question, et pourquoi ce nom Artemis ? Alors, recherche faite, dans la mythologie grecque, Artemis est en fait la sœur jumelle d'Apollon. Je ne le savais pas, je me suis instruit, peut-être que vous-même ne le saviez pas. C'est donc un clin d'œil évident aux émissions Apollo qui, entre 1969 et 1972, avait permis aux premiers hommes de marcher sur la Lune. Alors cette fois, l'objectif va plus loin, il ne s'agit plus seulement d'y aller, il s'agit d'y retourner pour durer, s'installer. Derrière Artemis, on retrouve la NASA, mais aussi l'Europe avec l'ESA, le Canada, le Japon, d'autres partenaires. La mission qui a fait là, donc récemment, qui a eu lieu là récemment, c'était donc la deuxième partie de ce programme avec Artemis 2, la première mission habitée du programme. 4 astronautes à bord du vaisseau Orion propulsé par le gigantesque fusée SLS, que vous avez déjà entendu parler aussi, ont effectué un grand voyage autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Et alors, je n'ai pas tout entendu ça à l'actualité, mais recherche faite là aussi, il y avait plusieurs symboles importants qui ont marqué cette partie de programme avec Artemis 2, puisqu'il y avait la première femme envoyée aussi loin dans l'espace lunaire, la première personne noire aussi sur une mission lunaire, une équipe internationale, et puis bon, surtout le symbole fort, la première mission habitée au-delà de l'orbite terrestre depuis Apollo 17 en 1972.
Moi, je m'en rappelle.
Moi, je n'ai pas trop de souvenirs de ce moment.
Alors, je m'en rappelle, j'avais 4 ans, hein, je peux vous le lever, mais ça m'a marqué. C'est un de mes premiers souvenirs, justement, quand mon père, en face des casernes Chanzy où on habitait à l'époque, il m'a dit à un moment, en ce moment, tu vois, il y a deux personnes qui sont en train de marcher là-haut. Alors ça, c'est un de mes premiers souvenirs. Ça m'a marqué à vie quand même. C'est pas par hasard que maintenant ça m'intéresse l'astronomie.
Oui, mais puis faut quand même se le dire. Alors on va pas parler des sceptiques avec toutes les théories du complot. On a déjà fait une émission là-dessus. Mais du coup, donc on a bien marché sur la Lune. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avec cette mission, c'est qu'aucun autre être humain n'avait été aussi loin depuis plus d'un demi-siècle. Alors on a envoyé tout un tas de autres vaisseaux, sondes, etc. là maintenant qui sont très très loin et même au-delà de notre système solaire. Mais le voyage d'un être humain aussi loin, ça faisait 50 ans que c'était pas arrivé.
Et voir un lever de terre justement, eux ont pas vu ça depuis la mission Apollo 17 quoi. Donc quand on fait le tour, qu'on passe sur la face cachée, à un moment, en plus, on a un blackout radio, ce qui fait que ça pose... Alors maintenant, là, justement, si on continue à vouloir s'installer dessus, ce qu'ont réussi à faire, d'ailleurs, les Chinois, il y a quelques mois, je ne sais plus si c'était Chang 5 ou 6 ou 7, mais ils ont réussi à faire atterrir une sonde sur la face cachée, ce qui est un exploit technique, ça n'avait jamais été fait avant, quoi.
Oui, parce qu'il y a quand même plein de défis à relever. Là, le vaisseau Orion, il devait supporter le vide spatial lointain, les radiations, la navigation autonome, la rentrée atmosphérique à très haute vitesse. Enfin, plein de défis qui sont compliqués quand même à relever d'un point de vue technologique. Et revenir de la Lune, ça n'a rien à voir avec, par exemple, les nombreuses missions dans lesquelles on gagne de plus en plus quand même en compétences, mais comparativement avec les allers-retours de la Station Spatiale Internationale. L'ISS, il y a énormément de vaisseaux qui partent, qui reviennent avec du matériel et des humains, mais ce ne sont pas les mêmes données parce que revenir de la Lune nécessite de revenir avec une certaine vitesse et donc le freinage dans l'atmosphère derrière nécessite un équipement et des technologies qui ne sont quand même sensiblement pas les mêmes, puisque le retour depuis la Lune, c'est environ 40 000 km/h au moment de la rentrée dans l'atmosphère. Ce qui fait que notamment ce qu'on appelle le bouclier thermique au niveau du vaisseau Orion doit encaisser des températures proches de 2800 degrés. Donc autant dire qu'il faut que ce soit solide.
Ah, le steak, il doit pas être bien saignant.
Non, non, d'ailleurs, dans Apollo, tu me corriges, Jean-Luc,
Apollo 13, tu veux dire.
13 le retour avait été les fesses serrées, puisque c'est la fameuse mission qui avait fait le tour de la Lune sans pouvoir se poser, alors que c'était ce qui était prévu. Il y a un film d'ailleurs avec Tom Hanks là-dessus, entre autres.
Et,
excellent. Et ils ont été obligés de revenir dans des conditions tragiques. Et cette mission qui était un échec, qui était finalement pas un échec, mais un exploit humain dans la coordination de l'ensemble des humains et sur Terre qui coordonnaient la mission avec tous les scientifiques, les ingénieurs qui ont dû réfléchir au niveau du filtre à air, au niveau de tout un tas de données de reprogrammation, puisque au lieu d'atterrir et d'amerrir du coup avec le vaisseau prévu à cet effet, il a fallu faire des changements et ça a été toute une
ils sont revenus avec le LEM en fait.
Exactement.
Le vaisseau Aquarius, il y avait trois vaisseaux quoi, le porteur, le vaisseau qui devait servir à atterrir sur la Lune, qui n'était pas du tout fait pour faire. Par contre, évidemment, ils sont quand même, ils avaient le bouclier.
Ils avaient le bouclier thermique.
Le bouclier thermique, mais et puis en
mais effet, endommagé sans savoir s'il allait tenir.
Voilà, sans savoir. Bon, faut savoir que de toute façon, toutes les missions Apollo, la chance, c'était pas toutes, des petits cafouillages et tout. Bon, Apollo 13, c'est vraiment là, ils ont cumulé, c'est un miracle qu'ils soient rentrés vivants. Mais la NASA estimé à peu près à 50% de chance
de rentrer.
C'était une chance sur deux que les gars viennent vivants. Hein. Et sur toutes les missions Apollo. Alors évidemment, sur Apollo 17, ils commencent à avoir un peu plus d'expérience. Au début, Apollo 11, ils sont restés 2 heures, 3 heures, et ils sont redécollés vite fait. Après, sur Apollo 17, là, ils ont fait 35 km en rover. Ils sont restés plus de 2 jours sur place, 3 jours même. Et donc voilà. Bon, mais alors évidemment, maintenant, on n'a plus les mêmes obligations, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent surtout pas qu'il y ait un accident.
Il faut pas qu'il y ait d'accident. Il y a des enjeux colossaux derrière tout ça, puisqu'il y a des financements. Et clairement, Artemis 2 a été finalement une grande répétition, puisque il devait y avoir un test grandeur nature avec la prochaine étape d'Artemis 3 qui était censée être la mission d'alunissage, et finalement il y a eu déjà des modifications puisque la NASA estime que les tests ne sont pas tous ok, ni toutes les technologies suffisamment présentes et sûres. Donc s'il a été évoqué initialement un alunissage de la mission Artemis 3, c'est finalement un vol test qui sera effectué d'amarrage en orbite terrestre entre la NASA et le vaisseau Orion et les futurs atterrisseurs lunaires qui seront fournis soit par SpaceX ou Blue Origin et que Artemis 3 effectuera. Et ça, cette mission-là, elle est prévue que pour la fin de l'année 2027 par la NASA, s'il n'y a pas de changement d'ici là. Parce que pour rappel, quand même, là on utilise plein de thèmes, vous entendez des termes d'astronautes, alunissage, donc c'est atterrir sur la Lune, amérissage, c'est sur la mer au moment du retour du vaisseau, et c'est pour ça qu'on va parler d'atterrissage quand on atterrit sur la Terre. Et l'amarrage, ce sont deux vaisseaux spatiaux qui se rejoignent et se connectent dans l'espace, ce que fait très très bien maintenant aujourd'hui, notamment avec l'ISS, il est russe, le
Soyouz. Le Soyouz dans la version 31e, parce que en fait, oui, c'est ça qui est fou. C'est à l'époque où justement les Américains, avant, ça a été la navette spatiale qui l'a fait pendant des années, ce qui était un outil formidable, hein, qui a permis de réparer Hubble plusieurs fois, qui avait une capacité de il pouvait emmener les soutes étaient énormes, donc il pouvait mettre plusieurs satellites en orbite en même temps. C'était entre l'avion et la fusée, quoi. C'était magique, sauf que on n'oublie pas Columbia et Endeavour qui ont fini 7 astronautes à tous les coups, dont la première tour, enfin pas tourisme, mais une institutrice donc il y a eu 14 morts comme ça. Donc là, évidemment, et ça a mis le point final aux missions de la navette, quoi. Mais le vieux Soyouz russe, qui lui, les plans, ils datent carrément des années 50-60, ils ont changé quelques trucs, ils ont amélioré, mais en fait, eux, il y a une fiabilité incroyable.
La structure de base reste la même. Donc c'est seulement sur Artemis 4, si tout se passe bien, que le premier vrai retour d'humains sur la Lune devrait avoir lieu, si le plan tient bien.
J'aime quand les plans se déroulent sans accroc.
C'est vrai. Et cette fois, ce ne sera pas seulement la question de rouler en rover ou de planter un dapro. On est clairement sur un projet qui prévoit un retour sur le sol lunaire avec l'objectif d'une exploration du pôle sud de la Lune, la recherche de glace d'eau dans les cratères sombres, l'objectif d'aller sur des séjours qui seront plus longs, et l'idée de pouvoir peut-être parvenir à construire des bases temporaires. Puisque l'idée, c'est qu'à terme, il y a une station spatiale lunaire Gateway, parce qu'il y a un projet derrière tout ça, et ce projet, c'est partir sur Mars, on en a déjà parlé. Faire décoller une fusée depuis la Terre, liée notamment à la problématique de l'atmosphère, engendre des coûts et une énergie qui est pharaonique.
Multiplié par 6, quoi, à peu près.
Multiplié par 6. Et l'idée de partir de la Lune permettrait en fait de partir sur une base déjà qui n'est pas dans une nécessité de s'arracher de la Terre liée à l'atmosphère et pouvoir partir de manière beaucoup plus aisée. Divisé par 6.
Il y a pas, en plus, ça intéresse, le pôle sud de la Lune intéresse les scientifiques aussi. Il y a pas que pour des raisons d'exploration spatiale, mais le fait simplement que on sait maintenant, enfin ça reste à vérifier, mais on pense qu'il y a vraiment de la glace d'eau qui est restée donc dans le fond de ces cratères, qui sont comme chez nous le pôle, les pôles sont très très peu éclairés, hein. C'est bien pour ça que vous avez du soleil de minuit quand vous êtes du bon côté, mais autrement, l'hiver polaire, ça peut durer 6 mois au pôle sud, hein, quand vous êtes vraiment sur le pôle sud. Et donc, ces cratères renferment des quantités d'eau, alors qui en effet peuvent être intéressantes, ne serait-ce que parce que vous savez, chaque kilo que vous envoyez dans l'espace, en fait, ça coûte entre 10 et 15 000 dollars. Et donc, quand vous devez, si on doit aller sur la Lune pour vraiment y rester, vous imaginez bien que on boit 4-5 litres d'eau par jour, ça a des coûts pharaoniques. Donc, si on est capable déjà de trouver de l'eau sur place, ne serait-ce que pour faire vivre les astronautes, c'est intéressant. Et puis surtout, cette glace d'eau, elle pourrait nous renseigner sur en fait la première eau au niveau de la formation du système solaire, sachant que elle a jamais été réchauffée, c'est l'eau originale qu'il y avait il y a 5 milliards d'années lors de la formation du système solaire, quoi.
Et puis ça c'est des suppositions très éloignées, mais il y a l'idée que certains scientifiques pourraient confirmer peut-être une des grandes théories de la formation de notre satellite, qui pourrait être celle quand même que c'est un morceau de la Terre qui a été arraché, et sait-on jamais, peut-être qu'il y aurait des traces dans cette eau de cette explication d'un point de vue scientifique.
Oui, ça c'est pratiquement acquis, même si évidemment faut aller vérifier sur place pour les modèles marchent vraiment très très bien sur la fameuse Théia, elle a même un nom, une planète à peu près de la taille de Mars, qu'aurait percuté la Terre il y a environ 4 milliards d'années, quoi.
Et puis cette glace, bah, comme on vient de le dire, c'est une ressource précieuse d'eau potable, potentiellement pour fabriquer de l'oxygène, voilà. Et également peut-être même du carburant spatial. Enfin, il y a plein d'objectifs et d'expérimentations qui auront lieu de toute façon dans toute cette recherche et découverte du sol lunaire et de ses environs.
Tu parles de carburant spatial, ça veut dire qu'ils font tourner les fusées à la flotte alors qu'ils sont même pas foutus, les scientifiques, de nous faire tourner des bagnoles à l'eau ? Non.
Ah bah, l'hydrogène,
ouais, pardon.
Ça demande un petit peu d'énergie aussi, hein, parce que bah, pour séparer les atomes d'hydrogène d'oxygène, bah, c'est. Mais en effet, oui, c'est le fameux moteur à eau dont on parle. Voilà, après, il faut voir les rendements, mais en dehors de l'atmosphère terrestre, quand il y a moins plus la gravité et tout ça, ça devient évidemment plus rentable, quoi.
Mais puis, alors là, je voudrais pas dire une connerie, mais Jean-Luc, tu me corriges. Des panneaux solaires qui sont en dehors de l'atmosphère sont des panneaux solaires qui vont être excessivement plus rentables également, ce qui fait que voilà, il y a plein d'équations qui rentrent, qui sont différentes de notre planète, quoi. Donc fabriquer de l'hydrogène, il faut de l'électricité, et donc là peut-être que il y a des solutions plus évidentes.
Bien sûr. Quand on voit les robots martiens qui, avec des petits panneaux, alors ils ont parfois des problèmes de poussière, de choses comme ça. Bon, faut pas oublier qu'ils ont aussi un petit kilo de plutonium au milieu, ça aide bien. Parce que ça, au niveau énergie, au niveau rendement, on connaît pas mieux. Ça pose d'autres problèmes, mais ça marche très bien.
Bon, en tout cas, la Lune pourrait clairement devenir une sorte de camp de base pour aller encore plus loin, vers Mars. Et Artemis, c'est pas seulement un programme lunaire, c'est une sorte d'entraînement des géants pour préparer les voyages interplanétaires, du futur peut-être, et du début du rêve qui pourrait devenir réalité. Donc est-ce que Apollo c'est encore une supercherie, un complot? Non, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait ouvrir le début d'une nouvelle ère, peut-être le premier chapitre d'une nouvelle épopée, et puis bah, qui sait, parmi nos auditeurs, peut-être les premiers jeunes qui nous écoutent ce soir, parmi eux se trouvent peut-être de futurs astronautes qui réaliseront le premier amarcissage.
Ouais, on va commencer par la Lune déjà. Déjà, ça peut en occuper quelques générations.
Oui, on est bien d'accord. À noter quand même que pour Mars, se révélera encore des défis bien plus grands et plus fous. Le trajet, la vitesse, les radiations, ce fameux atterrissage sur Mars si redoutable, avec ce qu'on connaît nommé parfois les 7 minutes
de terreur,
qui est une opération particulière et difficile, car il faut freiner dans une atmosphère qui est trop fine pour parachuter facilement, mais assez dense pour provoquer une chauffe énorme. Mais enfin bon, on n'en est pas encore là. Levez les yeux quand même déjà ce soir vers notre satellite, la Lune, qui n'est plus seulement un petit souvenir des années 60, elle redevient une destination, peut-être même bientôt, une destination touristique.
Allez, prenez vos billets. Et une petite pause musicale.
C'est parti avec The Other Side, Public Service Broadcasting.
Apollo Control Houston, 2:50 away from time of LOS now. Our distance away from the moon, 460 nautical miles. Velocity, 7417 feet per second. Here in mission control, we're standing by. There's certainly a great deal of anxiety at this moment. We acquire at 36 minutes. So at 68 hours, 55 minutes, continuing to monitor. This is Apollo Control. Distance away from the moon now, 400.
101 nautical miles, velocity rating 75/35, as we continue with this flight of Apollo 8. With Apollo 8 at 68 hours, 58 minutes, 45 seconds. We will watch with continuing interest the AOS clock here in Mission Control. They're traveling over the backside of the moon now. Our velocity reading here, 7777. Feet per second. Now we're in our period of longest wait. Continuing to monitor, this is Apollo Control, Houston. Control Houston, we've acquired signal, but no voice contact yet. We're standing by. We're looking at engine data and it looks good. Tank pressures look good.
Apollo 8, Apollo 8, this is Houston, Houston, over.
Roger, Houston, we read you loud and clear. How do you read us?
We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control, Houston, switching now to the voice of Jim Lovell.
560.5, good to hear your voice.
Spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth.
C'était The Other Side du groupe Public Service Broadcasting qui est sorti en 2015 et je vous avais remis ce petit son puisque ce son, et vous l'avez peut-être reconnu, un petit morceau électro avec les communications radio de la mission Apollo 8 quand l'équipage disparaît derrière la Lune et que le contact radio est rompu, comme avec Artemis 2. Vous êtes sur Radio Dynamo avec la tête dans les étoiles. Et nous allons partir gravir les plus hauts sommets du système solaire.
Pas du système solaire, mais de Pluton.
Du Pluton.
Curieuse, de Pluton. De Pluton.
Mais qui font partie du. Ça fait partie des plus hauts sommets du système solaire. Pas le plus haut.
Ouais, non.
Les plus hauts.
Ouais, ouais. En tout cas, les plus hauts sur la Terre, il y en a des milliers qui font 6000 mètres. Mais sur Pluton, qui est une petite. C'est même plus une planète, c'est une planète naine. Là, c'est le. Il s'appelle le T2 d'ailleurs. Nous, on a le K2 hein, qui est très connu, qui fait plus de 8000. Mais là, c'est le T2 sur Pluton.
Alors Pluton, juste quand même pour rappel, Jean-Luc, fait partie ou fait pas partie de nos planètes du système solaire?
Alors, depuis 2008, elle a été donc rétrogradée en planète naine, parce qu'on connaît plein maintenant de planètes, d'astres, voire plus gros que Pluton d'ailleurs, comme Sneda, Eris, et il y en a d'autres, qui sont donc très très éloignés et puis qui sont pas dans le même plan que le système solaire. C'est surtout ça qui a fait qu'elle a été rétrogradée comme planète naine. Elle a pas un petit peu comme la Lune par rapport à la Terre, mm-hmm. C'est pour ça que des fois elle est haute, des fois elle est basse. Elle tourne pas dans le même plan que les autres planètes.
C'est ce qui déjà la rend disgracieuse aux yeux de la communauté scientifique.
Oui, tout à fait. Et puis, alors évidemment, les Américains, ils n'étaient pas contents parce que Clyde Tombaugh, c'est le seul découvreur d'une planète qui était américain. Donc, il y a eu quelques résistances, mais enfin bon, la communauté scientifique. Et puis, c'est très bien des planètes naines. On en connaît. À l'époque, c'était la seule qu'on connaissait. Maintenant, on en connaît des dizaines, voire des dizaines de dizaines maintenant.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe là-bas?
Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe qu'en 2015, il y a eu une sonde New Horizon qui est passée après avoir été passée pas trop loin de d'Uranus et de Neptune, et elle est passée très près de Pluton qu'on connaissait pas du tout. Moi, je me rappelle sur tout l'univers, on savait qu'elle était entre 5 milliards et 6 milliards de kilomètres, vu qu'elle a une orbite très elliptique. Et puis, on n'avait aucun point de détail. On imaginait un monde complètement glacé, mais sans savoir rien de sa surface. Et là, je vais vous emmener faire un petit tour, un peu d'alpinisme. Alors, évidemment, c'est de l'anticipation. Hein, ça, je pense que ça serait pour être un compte-rendu d'expédition qui aura lieu dans 100 ans, 150 ans, 200 ans, si tout se passe bien.
Et dans un micro-scaphandre ultra
dans
fin.
Donc c'est évidemment, ça fait rêver, hein, mais c'est évidemment c'est pas réel, hein, mais c'est une promenade sur Pluton. Alors en fait, là, faut que je vous le dise, c'est pas moi le rédacteur, hein, c'est Émilie Martin, qui est donc journaliste scientifique à Ciel et Espace
depuis de nombreuses années.
Et donc je vais vous lire son texte qui vous met en glaciation plutôt, parce qu'il fait moins de 235 sur sur Pluton. Vous êtes à bout de force. La gravité a beau être 16 fois moindre qu'elle ne l'est sur la Terre, l'ascension vous demande tout de même de sérieux efforts physiques et une concentration intense. Il s'agit de ne pas glisser le long de ces vertigineuses pentes glaciées, de ne pas perforer son scaphandre. Encore quelques pas, vous y êtes enfin, au sommet du T2, à 6200 mètres d'altitude. C'est le plus haut pic des monts Tenzing, eux-mêmes les plus hautes montagnes à la surface de Pluton. Sur ce monde reculé, la température moyenne, est de moins 235. Quasiment tout, y compris le relief que vous êtes en train d'arpenter, est fait d'une glace d'eau, dure comme du granit. Du haut de ce promontoire, que vous êtes le tout premier astronaute à atteindre, le panorama est encore plus fou que vous ne l'aviez imaginé. Évidemment, la luminosité est faible. Ici, le soleil, simple point brillant à l'horizon, éclaire mille fois moins que sur Terre. Mais il fait tout de même plus clair qu'attendu, suffisamment en tout cas pour apprécier la vue. Devant vous, vers le nord-est, s'étire le fameux cœur de Pluton. Vous aviez si souvent rêvé de ce paysage inouï révélé en 2015 par la sonde New Horizon et nommé la région Tombaugh, en l'honneur de Clyde Tombaugh, le découvreur de la planète naine. De là où vous êtes, Il est impossible de percevoir toute l'étendue de cette région gigantesque qui couvre 1600 km d'est en ouest et 1200 km du nord au sud. Mais vous pouvez observer sans peine la partie ouest du cœur, par-delà les autres sommets du mont Tenzing, au premier plan. Sputnik Planitia est une immense plaine en apparence aussi plate qu'une table de billard. En réalité, c'est un bassin d'impact de 2,5 km de profondeur qui a été comblé par un glacier, non pas d'eau, mais d'azote. Ce gaz est le constituant principal de la fine atmosphère de Pluton. Il se condense et se solidifie dans les conditions de température plus faibles et de pression plus élevées qui règnent au fond de la dépression. Pas un cratère n'altère la pureté de l'interminable patinoire. Ce qui suggère que la langue glaciaire est très jeune à l'échelle géologique, 1 million d'années au maximum, et même plus probablement 180 000 ans, estiment les astronomes, à la lumière des données de New Horizon. À l'aide de vos jumelles intégrées à votre scaphandre, vous parcourez Sputnik Planitia, à la recherche de détails de glace. Trouvés ça et là, les abords se découpent en une mosaïque de polygones de 20 à 30 km de diamètre chacun. Ces motifs résultent de très lents mouvements de convection qui animent cette zone du cœur. L'azote, légèrement plus chaud en profondeur, se liquéfie partiellement et remonte à la surface par endroits avant de replonger, dessinant ces curieuses dentelles glacées. À travers vos jumelles, vous distinguez aussi au bord de Sputnik une myriade de petites îles, des icebergs détachés des massifs montagneux environnants. Ces blocs de glace d'eau, moins denses que l'azote, dérivent à la surface de la patinoire. Vous pourriez passer des heures à contempler ce fascinant cœur qui cache encore bien des secrets. Mais vous savez que votre temps au sommet est compté. L'ascension a été éprouvante et malgré vos bottes isolantes, un froid brutal gagne désormais vos pieds. Vous faites quelques pas encore entre les rocs glacés afin de découvrir l'autre côté de la Seine. Vers l'ouest, le paysage est radicalement différent, à tel point que vous avez le sentiment d'être subitement sur une autre planète. Au lieu d'une vaste plaine blanche et fraîche, c'est un chaos pourpre, bosselé et cratérisé qui s'offre à votre regard. Vous vous souvenez maintenant de ce que vous aviez lu à ce sujet. Pluton est, avec la lune de Saturne jappée, le corps le plus contrasté de tout le système solaire. Ce qui confère à cette partie du globe sa teinte particulière, ce sont les aérosols organiques, nés dans l'atmosphère de la planète naine. Du chimique complexe mêlant l'azote et le méthane, ils retombent au sol en fine neige rougeâtre. Pourquoi ces précipitations ne concernent-elles qu'un seul côté de Pluton? On ne le sait pas encore. Des modèles numériques suggèrent que la circulation atmosphérique de concert avec la topographie piège les particules dans cette zone à l'ouest des monts Tenzing. Avant d'entamer la redescente qui s'annonce rude, vous prenez le temps de lever les yeux vers le ciel. L'atmosphère plutonienne est bien trop ténue, 100 000 fois moins dense que celle de la Terre, pour diffuser la lumière du pâle soleil. De jour comme de nuit, la voûte céleste demeure donc noire, piquée d'étoiles bien visibles, sauf à l'horizon. Car lorsque les rayons solaires rasent la surface, ils traversent une bien plus grande épaisseur d'atmosphère, multipliant les interactions avec les aérosols organiques. Or, ceux-ci diffusent préférentiellement les courtes longueurs d'onde, de sorte qu'un somptueux limbe bleuté s'élève sur 200 km au-dessus de la planète. Mais où est Charon ? En quittant le sommet du T2, vous vous faites la réflexion d'un seul élément manque à ce tableau fabuleux. Charon, c'est normal, le gros satellite de Pluton, 1200 km de diamètre, contre 2400 km pour la planète naine, n'est jamais visible depuis cet hémisphère. Les membres de ce duo gravitationnel ont en effet figé en rotation synchrone, comme la Terre et la Lune par exemple. L'un présentant toujours la même face à l'autre, dans un tête-à-tête infini. Impossible donc de contempler Charon depuis les monts Tenzing. Pour pouvoir l'admirer, Il n'y a pas d'autre choix que de changer de point de vue. Qu'à cela ne tienne, vous vous réjouissez. Ce sera l'objet d'une prochaine voyage extraterrestre. Voilà, c'était une petite balade sur Pluton. Benjamin reprendra quelques photos des photos qui illustrent l'article. Hein, et vous verrez, ça donne envie d'y aller. Bon, mis à part les moins 235. Mais...
oui, ça doit faire un petit peu frisquette.
Mais on est capable, hein, on fait donc les combinaisons spatiales, elles font justement une différence des thermiques de plus 130, 150 degrés à moins 200. Donc d'ici 100 ou 150 ans, on saura faire ça. Alors après, de là, aller faire de l'alpinisme, mais là, contrairement, c'est pas le cas d'eux non plus, parce que c'est des pentes à 30, 40 degrés. Donc,
oui, c'est un petit peu en raide.
Et puis 16 fois moins de gravité. Bah, ça permet de faire des petits sauts comme
ça. Voilà, donc... Le K2, ça reste quand même une ascension des plus dangereuses au monde. Ouais. Même réputée pour être quand même plus difficile que l'Himalaya. Quoi, hein.
C'est dans l'Himalaya, mais l'Everest.
De l'Everest. Ouais.
Après, il y en a plein qui sont beaucoup plus durs, oui. En effet. À part, ça dépend. Normalement, la voie traditionnelle sur l'Everest, c'est ouest, par la face est. Là, il n'y a que 20 mecs au monde qui ont réussi et la moitié, c'est pas dur. Alors, mes chiffres datent un peu, mais il y a peut-être maintenant 30 gars qui ont réussi à l'ascension et il y en a la moitié qui sont morts. Donc, l'Everest peut être aussi très, très dur. Et après, vous avez le Nanga Parbat, où c'est deux fois plus long. Là, c'est au Pakistan. Et voilà. Enfin, bon, c'est pas pour demain, l'alpinisme spatial, hein, mais moi, j'ai trouvé ça rigolo. Merci, Émilie Martin.
Ouais, bravo, belle écriture en plus. Et belle lecture, Jean-Luc.
Oh, bah,
je te connaissais pas ce talent.
Merci.
Bon, bah, écoutez, on va arriver sur la fin de l'émission, tranquillement. Moi, ce que je vous propose surtout aussi, c'est de nous retrouver le mois prochain pour la prochaine émission, puisqu'on est toujours, normalement, si on saute pas à pied joint par un jour férié, sur le premier lundi de chaque mois, Jean-Luc, et puis aux platines, Belette, Romain, ça dépend.
Lounès,
qui sont là pour nous accompagner sur ces petites soirées astronomie.
Toujours avec grand plaisir, tu sais bien.
Je sais. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à profiter du ciel étoilé. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jupiter est encore vraiment dans une période d'observation très haute dans le ciel, dans la constellation des Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller vous balader. C'est un des premiers gros points lumineux, presque à l'oblique, qu'on ne peut pas trop louper. Direction sud, à peu près, je dirais. On va vous souhaiter une bonne soirée.
Oh bah oui, j'espère qu'elle va être belle.
Bonne soirée à tous les auditeurs.
Et à bientôt sous les étoiles.
Et merci à notre technicien.
En vous remerciant aussi, chers animateurs. Salut les gars.
Allô Jean-Luc, est-ce que tu me reçois?
Te reçois 5 sur 5.
Est-ce que si je te dis la tête dans les étoiles, ça te dit quelque chose?
La tête dans les étoiles? C'est sur Radio Dynamo, ça.
Tout à fait, c'est l'émission qui va vous parler d'astronomie. Mais c'est quand déjà?
C'est tous les premiers lundis de chaque mois.
Rendez-vous sur Planète Dynamo, le premier lundi du mois à 19h, avec Jean-Luc
et Benjamin. Une émission proposée par l'association Partage Étoilé.